Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Cher Gilles Boeuf, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver, cher Gilles, ce matin, ici au Collège de France, pour ce colloque que nous connaissons bien, puisque notre fondation a soutenu de nombreux projets au Muséum d'histoire naturelle. Et quand vous le présidiez, la restauration des serres, le programme Viginature. Et vous êtes venu également partager de nos travaux du conseil d'administration de la Fondation. Vous êtes une personnalité rare qui porte une vraie vision de la biodiversité et de ses enjeux. C'est en tout cas pour moi un vrai honneur de participer à ce colloque. Et j'avoue, c'est un peu impressionnant et inhabituel pour nous, chefs d'entreprise. En tout cas, merci au sein de cet aéropage de chercheurs et d'éminents spécialistes et scientifiques d'avoir souhaité un témoignage du monde de l'entreprise. Et avec Arnaud Chaperon de Total, nous apportons un peu de biodiversité ici dans vos orateurs. Alors, vos travaux ici au collège portent sur deux grands temps, la biodiversité d'un monde d'avant l'humain et la biodiversité dans un monde où l'humain fait irruption et va à son tour structurer la nature. La question fondamentale que vous posez pendant ces deux jours, l'homme peut-il s'adapter à lui-même ? Eh bien, pour nous, énergéticiens, et je crois que mon collègue de Total le confirmera peut-être tout à l'heure, cette question pourrait être aussi, l'entreprise peut-elle s'adapter à elle-même dans un univers qui est en pleine mutation, transformation ? Nous avons amorcé un processus de transition, de transformation vers un modèle de production et de consommation plus respectueux des ressources naturelles et du climat. Cette transition énergétique, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle quasi officiellement, cette transition énergétique occupe le débat public national depuis plusieurs mois, mais c'est un débat qui est devenu international, très fortement européen. On voit bien, il est au cœur de la politique énergétique allemande et européenne, et aujourd'hui mondiale. Cette mutation énergétique, cette transition énergétique, elle est, je crois, nécessaire et souhaitable. Et notre groupe, GDF Suez, s'y est d'ailleurs largement impliqué pour contribuer au débat. Mais au fond, cette idée française, aujourd'hui débattue, s'inscrit d'abord dans un contexte international et c'est celui d'un paysage énergétique mondial en pleine transformation, et je voudrais commencer par vous en donner ma vision. Je crois que nous évoluons aujourd'hui dans un paysage énergétique mondial à trois vitesses. D'abord, il y a le monde émergent. Le monde émergent qui a des besoins colossaux d'énergie pour accompagner sa croissance et son développement industriel, pour permettre l'accès de sa population aux différents usages de l'énergie. D'ici 2035, 90% de la hausse de la demande d'énergie dans le monde viendra de pays qui n'appartiennent pas à l'OCDE. Donc 90% en dehors d'Europe et des États-Unis. En Chine, par exemple, la demande d'énergie par habitant va être augmentée de 50% dans les 20 prochaines années et en Inde de 100%. Et pour répondre à ce besoin massif, toutes les énergies seront mises à contribution. Et même si le charbon devrait rester en tête du mix énergétique, les pays émergents se tournent de plus en plus vers les énergies faiblement carbonées. Cela se traduit notamment par un essor rapide du gaz naturel, qui, d'après l'Agence internationale de l'énergie, pourrait couvrir un quart des besoins nouveaux d'ici 2030. Et le gaz a des atouts très fort, dont les pays émergents ont bien compris le rôle. Le rôle du gaz est d'ailleurs mieux reconnu dans le monde entier qu'en France même. C'est une énergie qui va leur permettre de modérer leur impact sur le changement climatique, mais aussi sur la pollution locale de l'air, qui devient un sujet de plus en plus alarmant. On connaît la pollution de la ville de Pékin. Eh bien, les Chinois ont compris que la façon la plus rapide de dépolluer l'air à Pékin, c'était de passer du charbon au gaz. Et d'ailleurs, nous avons signé un accord à l'occasion de la visite du président chinois avec la ville de Pékin pour cela. Le gaz, c'est une énergie qui va aussi leur permettre de diversifier leurs sources d'approvisionnement et souvent d'exploiter leurs ressources domestiques, conventionnelles ou non conventionnelles. Si on prend l'exemple du plan quinquennal chinois, qui accorde ce plan une place majeure au gaz naturel, et c'est indispensable parce que le charbon occupe aujourd'hui 70% du mix énergétique, donc c'est une part excessive qui a entraîné des inquiétudes environnementales tout à fait justifiées et dont d'ailleurs les conséquences sont tellement visibles qu'elles marquent l'image de la Chine et qu'elles la détériorent. Sans compter que la Chine a des ressources substantielles de gaz conventionnel, mais aussi des ressources considérables, les plus grandes du monde, en gaz non conventionnel. Au final, la consommation de gaz en Chine pourrait quadrupler d'ici 2030 pour atteindre la taille actuelle du marché européen du gaz. Autre phénomène, peut-être moins connu dans le monde émergent, la forte croissance des énergies renouvelables. Aujourd'hui, la majorité des nouvelles capacités renouvelables dans le monde se construit en dehors d'Europe et des États-Unis. Un nombre croissant de pays émergents encourage le développement accéléré d'installations renouvelables. Pour vous en donner une illustration assez marquante, l'Arabie Saoudite, qui est le premier exportateur de pétrole au monde, prévoit d'investir 100 milliards de dollars d'ici 2032 dans la construction de 41 gigawatts d'énergie solaire. Un gigawatt, c'est une tranche nucléaire, ce qui représentera le tiers de sa production d'électricité. GDF Suez participe très largement à ce mouvement de développement des énergies renouvelables dans les pays émergents. Notre ambition est d'être l'énergéticien de référence dans les pays à croissance rapide et nous développons les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire et puis bien entendu l'hydroélectricité dans beaucoup de pays d'Amérique latine, d'Asie. Je parle du Brésil par exemple. Le Brésil a un formidable potentiel hydroélectrique et c'est d'ailleurs GDF Suez qui depuis 10 ans a le plus contribuer à augmenter les capacités de production hydroélectrique du Brésil. Et nous exploitons là-bas désormais 11 000 MW de barrages, c'est-à-dire deux fois notre capacité hydroélectrique d'Europe. Ça, c'était pour le monde émergent, soif d'énergie, et le renouvelable aura toute sa part dans les pays émergents. Deuxième bloc, l'Amérique du Nord, et plus particulièrement les États-Unis. Alors là-bas, une révolution énergétique et économique a bouleversé non seulement la donne locale, mais l'équilibre énergétique mondial. Cette révolution, ce sont évidemment les gaz et les pétroles non conventionnels. En 10 ans, la part du gaz a déjà quasiment doublé dans la production électrique américaine, en passant de 15% en l'an 2000 à près de 30% aujourd'hui. Le gaz, aujourd'hui, est à la fois abondant et bon marché. Donc, on connaît la problématique environnementale, évidemment, du gaz de schiste. Mais progressivement, les centrales électriques à gaz se substituent aux centrales charbon, avec d'ailleurs un impact environnemental immédiat. Les émissions de carbone ont diminué de 8% aux États-Unis depuis 2006. Au-delà du secteur électrique, le gaz remodèle l'ensemble de l'économie américaine, avec des effets positifs majeurs sur l'emploi, sur la production industrielle, avec le rapatriement d'industries fortement consommatrices d'énergie, qui sont des rapatriements pas seulement d'Europe, d'ailleurs, mais aussi d'Amérique latine ou d'Asie, qui reviennent aux États-Unis, qui est l'endroit du monde où l'énergie est désormais la moins chère. Le gaz est le meilleur marché au monde est aux États-Unis. Dès lors, l'électricité produite à partir du gaz est très bon marché. Et au passage, le charbon qui n'est plus utilisé est également très bon marché aux États-Unis, mais comme vous le savez, exporté en Europe avec ce phénomène exactement symétrique en Europe. Ce qu'on constate aussi, c'est que le gaz se substitue à d'autres, non seulement au charbon, mais à d'autres formes d'énergie. Est utilisé de plus en plus pour les bus, les camions, les trains et les bateaux. Cette révolution va connaître un tournant avec l'exportation de gaz américain. Alors, ce ne sera pas immédiatement bouleversant, mais ceci va accélérer la mondialisation des échanges de gaz. Les États-Unis étaient des importateurs de gaz naturel liquéfié. D'ailleurs, nous étions le premier importateur de gaz naturel liquéfié aux États-Unis. Et les États-Unis sont devenus autosuffisants, d'abord, en gaz, et ils vont devenir exportateurs. Et on voit que les exportations américaines de gaz se sont invitées dans le débat sur la crise russo-ukrainienne et la question de la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'Europe. Alors, GDF Suez fait partie des premiers acteurs engagés dans l'exportation de GNL. Nous avons bâti un projet en Louisiane qui s'appelle le projet Cameron pour liquéfier du gaz et l'exporter dans le reste du monde. Au début, ce sera évidemment principalement en Asie, compte tenu du prix du gaz sur place et de la demande. Et donc, d'une situation de premier importateur de GNL aux États-Unis, qui n'est pas le secteur d'activité d'avenir, nous voulons devenir un des premiers exportateurs de GNL. Ça, c'est pour les États-Unis, où très clairement, les États-Unis ont retrouvé une compétitivité énergétique par rapport au monde entier, forte par rapport à l'Europe, mais très forte par rapport à l'Asie. Enfin, dernier acteur du triptyque l'Europe, qui fait actuellement face à un changement total de paradigme énergétique. Ce changement, c'est ce que je définis par les 4 D pour l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bouleversement ? C'est à la fois déréglementation, décroissance, décentralisation et digitalisation. La déréglementation, fait référence évidemment à la libéralisation des marchés, on pourrait en parler longuement, et par le développement de la concurrence, mais de facto aujourd'hui, ceci a conduit à une espèce de fragmentation du secteur énergétique et même à une balkanisation de l'Europe de l'énergie. Deuxièmement, la décroissance ou déclin, c'est je parle là de la décroissance de la consommation d'énergie, sous l'effet de la crise et de la désindustrialisation, et évidemment des effets des économies d'énergie, de l'efficacité énergétique, depuis 2008, dans un environnement sans croissance économique, eh bien, il y a une décroissance de la consommation d'énergie. C'est une rupture. Il y a eu 50 ans de croissance continue de la consommation d'électricité et de gaz en Europe. Depuis 2008, il y a une décroissance de la consommation. Et lorsque la croissance économique est nulle, il y a moins 1, moins 2% d'évolution de la demande énergétique. La différence, d'ailleurs, est la même aux États-Unis, sauf qu'avec 3% de croissance aux États-Unis, il y a encore 1% de croissance de la demande en gaz ou en électricité. Décentralisation et digitalisation sont les moteurs d'une nouvelle forme de production de consommation d'énergie. Et c'est là que se trouvent finalement les moteurs les plus forts de la mutation énergétique ou la transition énergétique. On assiste à un déplacement de l'équilibre des systèmes énergétiques en raison de la technologie vers le client, vers les territoires, que ces clients soient industriels, que ce soit des ménages, que ce soit des collectivités locales. Et là, on a plusieurs phénomènes qui sont phénomènes corrélés qui sont à l'œuvre. D'un côté, il y a la volonté croissante des territoires de maîtriser leur politique énergétique et celle des clients de gérer au mieux leur énergie, leur politique énergétique, leurs dépenses d'énergie en devenant des consommateurs, comme on dit, avertis. Et de l'autre, du côté de l'offre, il y a la possibilité de la technologie de satisfaire de plus en plus ces besoins de maîtrise. Et je pense aux technologies dites intelligentes, comme les compteurs communicants, les smart grids, les capteurs, ou encore toutes les technologies digitales, qui sont amenées à jouer un rôle de plus en plus important. Et je pense aussi aux technologies strictement renouvelables de production d'électricité qui permettent le déploiement des énergies locales que sont le solaire, l'éolien, la biomasse ou encore le biogaz. Ma conviction, c'est que on passe d'un monde ancien à un monde nouveau en Europe et que cette évolution, elle est irréversible. Le temps de la production d'énergie centralisée, assurée par des acteurs monopolistiques historiquement, à partir de grandes unités, même d'unités de plus en plus grandes, ce temps-là est révolu. L'heure est aujourd'hui au partenariat entre producteurs et consommateurs. L'heure est aussi à la miniaturisation croissante des technologies. Une grande centrale électrique, c'est 1000 fois la puissance d'une éolienne. Et une éolienne, c'est 1000 fois la puissance d'un panneau photovoltaïque installé sur un toit. Et donc, on entre dans un système énergétique où les unités de production sont potentiellement 1 million de fois plus petites qu'avant. Je crois que l'un des leviers les plus puissants de la transformation énergétique se trouve là. Le solaire, le photovoltaïque, l'éolien sont non seulement renouvelables, ce qui est très bien, mais surtout offrent la capacité d'avoir des unités de production de plus en plus petites, et donc à portée de la main des territoires ou des consommateurs eux-mêmes. Alors, GDF Suez, qui a exercé le monopole du gaz en France, le monopole de l'électricité en Belgique, ne s'accroche pas à l'ancien monde. Bien au contraire, d'ailleurs, nous l'avons un peu montré de façon spectaculaire en dépréciant massivement de 15 milliards d'euros nos actifs liés à l'ancien monde, à la production d'électricité en Europe. Nous avons souhaité, au contraire, anticiper et accompagner ces transformations. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre stratégie aujourd'hui se définit en deux parties, être l'énergéticien de référence dans le monde émergent et être le leader de la transition énergétique en Europe. Et donc, nous sommes impliqués dans le débat français sur la transition énergétique en faisant 22 propositions, dont deux principales, je dirais. La première, c'était l'accélération des politiques d'efficacité énergétique, en se concentrant sur une priorité qui est la rénovation thermique des logements. Le deuxième pilier, c'est la nécessité d'utiliser toutes les énergies, de s'appuyer sur un mix diversifié pour répondre à la diversité des usages de l'énergie, et pour le chauffage, pour les usages spécifiques de l'électricité, pour le transport ou pour l'industrie. Et pour chaque besoin, il faut trouver la forme d'énergie la plus adaptée. Et nous avons préconisé, par exemple, de pousser un peu le gaz renouvelable, le biogaz ou biométhane issu de la fermentation des déchets, pour lesquels la France a des capacités avec une agriculture de grande dimension, alors qu'on en fait aujourd'hui presque rien comparativement à d'autres pays d'Europe qui, d'ailleurs, ont des capacités agricoles qui sont à peu près équivalentes à la nôtre. En tout cas, le biogaz issu de la fermentation des déchets est une énergie tout à fait pertinente qui pourrait représenter, à notre avis, on a fait des travaux, l'horizon 2030, 20% de notre consommation de gaz en France, ce qui n'est pas du tout négligeable, et ça pourrait contribuer à la pérennité des filières agricoles. Alors, le débat politique et sociétal se poursuit en France. Il doit se concrétiser par une loi, je pense que Mme Royal en a parlé, mais surtout, il est nécessaire que la réflexion française s'inscrive en cohérence avec le cadre européen. En effet, il revient à l'Union européenne d'accompagner les États dans la lutte contre le changement climatique, tout en assurant la compétitivité des industries et la sécurité d'approvisionnement. Or, ce sont les trois objectifs que s'était fixé l'Europe. Or, sur tous ces points, jusqu'à présent, on doit dresser un triple constat d'échec. La sécurité d'approvisionnement n'est plus garantie. Les centrales à gaz sont aujourd'hui prématurément abandonnées, puisque c'est le charbon qui les remplace. Même si elles sont nécessaires pour les pointes et pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Les énergéticiens que nous avons regroupés dans ce qu'on appelle le groupe Magritte, les grands énergéticiens européens, nous avons fermé 52 000 mégawatts de centrales à gaz, soit l'équivalent de la capacité de production du parc nucléaire français. Au passage, ça relativise un peu le débat totalement hexagonal sur Fessenheim. Deuxièmement, l'Union européenne se voulait précurseur en matière de réduction des émissions de CO2. Or, on voit les émissions de CO2 repartir à la hausse en Allemagne, par exemple, ne serait-ce que l'année dernière, puisque le gaz de schiste a chassé le charbon des marchés américains, et le charbon vient se déverser sur nos marchés européens et chasser le gaz. C'est une véritable aberration écologique. Troisièmement, la facture énergétique. Tout cela visait quand même à faire baisser la facture. Or, elle est en hausse. La facture énergétique est en hausse en Europe, alors qu'elle baisse aux États-Unis. Donc, le gap de compétitivité, ça s'aggrave. Alors, c'est pourquoi, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'avais proposé de réunir les 10 plus grandes entreprises énergétiques européennes confrontées à cette situation, les utilities, pour lancer un cri d'alarme conjoint qui a été porté devant le chef d'État, François Hollande, Angela Merkel et d'autres, et devant la Commission européenne et le Parlement européen, devant le grand public aussi, pour que ce sinistre industriel qui est en train de s'opérer en silence soit un peu plus connu. Nous avons proposé des solutions concrètes, mécanismes de rémunération de capacité, relancer le marché du carbone, qui s'était effondré au passage, par des mesures immédiates pour rééquilibrer l'offre et la demande de quotas d'émission, et se donner un objectif. Nous avions préconisé un objectif ambitieux de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, ce qui, dans notre groupe, n'était pas évident, puisque nous avions, parmi les plus gros émetteurs au monde, dont le plus gros émetteur au monde, qui était le groupe allemand RWE, mais il a accepté, solidarité et pour montrer la nécessité de remédier à la situation, d'approuver cet objectif ambitieux. Enfin, notre troisième proposition, c'était la réforme des systèmes de soutien aux énergies renouvelables pour intégrer les technologies matures au marché et concentrer la recherche-développement sur les technologies à faible émission de carbone de demain. Voilà les trois propositions que nous avons formulées. Elles ont bien progressé, puisque le nouveau paquet, que la Commission a proposé, qui a d'ailleurs été approuvé par au moins la France et l'Allemagne, comporte sur le carbone la totalité de nos propositions, sur les énergies renouvelables également, avec la fin de ce qu'on appelle les feed-in tarifs, c'est-à-dire les guichets ouverts sans limite qui ont conduit à des excès en Allemagne, pas en France d'ailleurs, il faut le dire. Par contre, on a encore des progrès à faire sur les marchés de capacité. Je voudrais conclure cette intervention en soulignant encore une fois l'incroyable révolution que vit le secteur énergétique aujourd'hui et qui a fait notamment une irruption dans les 2-3 dernières années d'une violence sans précédent qui a entraîné, je le disais, la fermeture dans une relative indifférence de centrales à gaz ultra-modernes, souvent toutes neuves. Donc c'est un gâchis industriel considérable. Alors, le monde a changé. Cette transition énergétique, elle est aussi positive. Et je l'ai souligné quelques aspects et je le crois profondément. Donc nous devons ensemble inventer un modèle énergétique dans lequel le consommateur lui-même va évoluer. Il sera à la fois plus averti, plus soucieux de sa responsabilité. Les fournisseurs d'énergie seront eux-mêmes responsables sur le plan environnemental et sociétal. Le consommateur sera plus connecté, plus autonome dans la gestion de son énergie et parfois même, il deviendra lui-même producteur de sa propre énergie grâce aux moyens que lui offrent les nouvelles technologies plus petites et à sa portée. Alors, notre groupe a cherché à anticiper ce tournant, d'ailleurs depuis longtemps, mais l'a accéléré ces derniers temps. Et cette vision renouvelée du rapport de l'entreprise au consommateur et du rapport du consommateur à l'énergie est au cœur de notre stratégie. Nous voulons être véritables partenaires stratégiques de nos clients. Nous leur apportons non seulement du gaz, de l'électricité, mais nous l'aidons à gérer, à réduire ses consommations, à développer des solutions innovantes au quotidien sur nos 150 000 salariés aujourd'hui. 90 000 sont totalement dédiés à l'efficacité énergétique. Et nous comptons, sur les 5 ans à venir, embaucher 45 000 personnes en France et un peu plus encore à l'étranger pour accompagner cette profonde mutation. C'est pour ça que je peux répondre avec confiance que l'entreprise, elle sait aussi être résiliente et que oui, l'entreprise, en tout cas, essaye de s'adapter à elle-même. Je vous remercie.